Aujourd'hui, c'est la fête du 22 décembre, la fête de Noël à notre église. Ceci est bien sûr un enregistrement pris quelques jours plus tard. Aujourd'hui, mes chers amis, ce n'est pas au pays des soucis et des questions que je vous emmène, c'est au pays des rencontres, où vous pouvez voir la face de Dieu. Vous me direz, comme tout le monde, qu'il n'y a pas de réponse définitive, que seulement la libre pensée, le libre vouloir, le vent de la recherche ne doit jamais s'essouffler dans notre intelligence. Vous me direz, n'y a-t-il pas quelque chose d'étouffant à avoir des idées, des vérités fixes, l'idée de stagner, de la stagnation, de la véritable, totale vérité désirée, rencontrée, adoptée pour toujours, n'est-elle pas étouffante? Vous me direz que nous ne connaissons que les choses que nous avons expérimentées, que par la pensée abstraite ou par l'expérience, et que nous ne sommes pas plus libres d'une pensée que d'une autre. Chaque pensée en pousse une autre. Après avoir bu un verre de limonade, on boit un verre de coca ou un verre de vin ou une tasse de café. Sans cesse, chaque chose s'altère, est usable, usée. Nous ne sommes pas plus libres d'une pensée d'amour que d'une pensée de haine. Pourtant, il nous faut choisir ce qui nous apaise, ce qui nous rend libres. Aussi, je vous propose la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et nous verrons là une expérience de liberté. Au chapitre 4 de Jean, Jésus prend la décision de se rendre à Jérusalem en passant par un pays que les Juifs de Galilée et de Judée maudissent, détestent. En général, de Galilée à la Judée, on passe par la vallée du Jourdain, ou plus rarement, le long de la mer. Et voilà que, pour une fois, un groupe de Juifs pratiquants passe à travers la Samarie. Cette Samarie est une région où Salmanazar, roi de Ninive, a déporté toute la population. Jusqu'en Ouzbékistan, Afghanistan, etc., Kazakhstan, dans d'autres régions aussi. Et finalement, il a déporté ces Juifs, qui ne sont revenus qu'en 1948, un peu avant, un peu après, par l'appel de Dieu, selon les prophéties. Et ils ne sont pas encore tous rentrés. Mais il y a un fait, c'est que le roi Salmanazar, Sennacherib, a amené d'autres populations, avec des divinités, des mœurs, des sacrifices humains, etc., des statues, etc. Tout cela s'est mélangé avec la population juive restante, qui était déjà fort altérée dans leur foi par la corruption des rois d'Israël, qui a duré quelques siècles. Aussi, cette population, dite qui se croit juive, n'allait pas tellement. Elle ne se rend pas à Jérusalem, elle ne dispose pas de tous les livres de la Torah, parce que les rois de 10 tribus du Nord ont interdit de lire tous les livres, ils se rendent à Jérusalem. Mais ils restent, à travers l'enseignement de certains juifs de cette région, il reste des traces du livre de la Genèse, du Deutéronome, de l'Exode. Il reste des vérités fondamentales et des promesses, des prophéties. Nous allons voir qu'une femme corrompue, une femme malheureuse de sa vie, va être rencontrée par Jésus. Lorsque Jésus quitta la Judée, il retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie. Il fallait, parce que Dieu lui a demandé, évidemment. Une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils, là se trouvait le puits de Jacob, que nous pouvons encore voir aujourd'hui. 42 siècles après Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus ne fait pas les choses au hasard. Il est avec un groupe de 12 hommes, et il est certain qu'une femme qui voit arriver un groupe de 13 hommes ne va pas aller jusqu'au puits. Elle va faire demi-tour, elle va avoir la crainte, surtout si ce sont des Judéens. Donc Jésus s'arrange pour que les 12 hommes, les 12 disciples, s'en aillent. Faire des courses, faire des achats, ou en tout cas chercher quelque chose pour nourrir le groupe. Et ainsi Jésus est seul, et Jésus va se présenter comme un homme plus humble, dépendant d'elle. Un homme assoiffé, un homme qui a soif, et non pas comme un juif orgueilleux et prétentieux. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juive me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Donc cette femme est étonnée et abasourdie, perplexe, devant un homme dont les habits le maintient et lui montre qu'il est de la race de Judée ou de Galilée. Elle est étonnée qu'il n'ait pas le comportement classique, habituel de mépris à leur égard. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains, dit Jean. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc Jésus présente un don venu de Dieu et c'est sa personne. C'est sa personne. Même. Et la parole incarnée à travers lui. Et il lui dit, tu peux avoir besoin de moi, si tu le veux. Et tu peux recevoir la vie éternelle, l'eau vive. Cette femme répondit au verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Elle n'a bien sûr rien compris au langage de Jésus, qui est toutefois, de toute manière voilé jusqu'à ce moment-là. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Il existe parfois dans certains puits des eaux stagnantes, mais il existe aussi des eaux vives. Je me suis rendu une fois un jour dans un endroit très isolé du Bénin, très loin dans la forêt, et il y avait une clairière où vivaient des hommes et des femmes, et cultivaient. Il y avait un puits au moins de 100 mètres. Je me suis penché pour regarder et on voyait l'eau couler à flot au fond du puits, ce puits qui avait été creusé à la main. À flot. C'était comme un torrent qui coulait. Donc il y a des eaux vives, parfois, au fond des puits. J'en suis certain, j'en témoigne. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Évidemment, Jésus fait allusion au don du Saint-Esprit qui est expliqué dans Jean au chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, c'est-à-dire crucifié, ressuscité et élevé à la droite de Dieu. Donc, l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, promet le Saint-Esprit en abondance, qui coule du sein de son Messie, le Messie envoyé par Dieu. Et voilà donc que Jésus se présente comme le Messie, comme la source de vie éternelle, et celui qui procure le Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste a dit ceci dans Jean chapitre 1, à toute la foule et à ses disciples. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà donc en quoi Jésus est la source de la vie. Je porte témoignage auprès de vous d'un échange spirituel avec une dame d'origine musulmane, il y a quelques jours. Après lui avoir donné un injil, un évangile, en français et en arabe, un mois après, où elle l'a lu, elle m'a dit « Je vois que Jésus est supérieur au Coran. et à moi, Mahomet, parce qu'il a en lui l'âme de Dieu. L'âme de Dieu est en lui. Elle n'est que là, pas autre part. Je crois vraiment qu'il est supérieur aux Juifs et aux musulmans. Eh bien, tu as compris que Jésus est habité, est le temple du Saint-Esprit, et qu'il procure le Saint-Esprit à qui veut croire en lui. Continue à lire l'Injile. Demande à Dieu de te révéler le sens de toutes les autres paroles, puisque tu as déjà compris cela. Donc, la source d'eau vive, cette femme musulmane l'a compris. Et là, ici, pour cette femme samaritaine, il en est de même. Ce n'est pas impossible, c'est une grâce évidente de Dieu qui est donnée à celui qui vraiment a soif de Dieu. C'est impossible à l'homme de comprendre. Mais, vous savez, Jésus a dit dans Jean, chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est la source d'eau vive. La source d'eau vive. Et la source d'eau vive, mes amis, est seulement en Jésus. Jésus le dit lui-même. Au chapitre 6 de Jean, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc Jésus, par ses paroles, engendre en nous le don de la vie. Le don de la vie éternelle. Pour qui reçoit Jésus et ses paroles? C'est ainsi que dans Jean, chapitre 5, au verset 24, Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc à Dieu le Père, à la vie éternelle ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ainsi donc, c'est immédiat. Le passage, la vie est transfusée dans le cœur, dans l'âme, dans la vie, dans le corps de celui qui croit en Jésus. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit ceci, au verset 23 et suivant, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Imaginez qu'il dit cela à la Samaritaine. Il a dit aussi cela à mon cœur, le jour que j'ai été confondu et que j'ai cru en Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc c'est la nature même de Jésus qui est l'objet de la révélation. C'est la nature divine. Je suis, c'est le nom de Dieu. Vous ne croyez pas ce que je suis, c'est le nom de Dieu, révélé à Moïse dans le buisson ardent. Voyons au verset 25, Jean chapitre 8, verset 25. « Qui es-tu ? Lui dirent-ils Jésus. » Jésus leur dit, répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. » Donc le Dabar, le Logos est là. Le Verbe créateur est là, incarné en Jésus de Nazareth. Et il est là dès le commencement, en archéo, avant l'histoire du monde. Avant l'histoire du monde. Dans Jean chapitre 1, il est ainsi expliqué. Au commencement était la parole. C'est un aoriste. C'est un verbe qui dit a été, est et sera. Était, a été, est et sera la parole. La parole a été, est et sera avec Dieu. La parole a été, est et sera Dieu. Elle l'est au commencement avec Dieu. Elle l'était au commencement avec Dieu. Elle a été, elle est, elle sera. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres n'ont point reçu. Donc la lumière et la vie luisent dans les ténèbres, dans les cœurs des hommes, qui acceptent la lumière. Qui acceptent la lumière. Il est évident qu'il y a des hommes qui acceptent la lumière, et d'autres qui la refusent. Et cela, c'est le miracle de la foi. Si des hommes acceptent la lumière qui est en Christ, la vie, la parole de la vie, c'est parce qu'ils ont de l'amour pour la vérité. Ils ont reçu en eux, avec amour la parole de la vérité. S'ils ne reçoivent pas, c'est parce qu'ils ont en eux l'amour du péché, l'amour des ténèbres. Ils ont l'amour de l'obscurité, du mal. Voici ce que Jean dit au chapitre 3, verset 19. Celui qui croit en lui, donc en Christ, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, est déjà hors de Dieu, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, c'est-à-dire le péché et la séparation d'avec Dieu, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Un pécheur qui aime le péché serre les dents, même devant Dieu, le jour qu'il sera en face de lui, il serre les dents, il ne les desserrera pas. Il tient son péché. C'est une horreur que de tenir à ce qui est faux et ce qui est mal. C'est une horreur. Mais cet homme, cette femme se condamne elle-même, tout comme Satan, il aime ce qui est négatif. Au verset 21, « Mais celui qui agit selon la vérité, qui poigne, c'est-à-dire qui fait la vérité, l'Éthéa, en lui, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Donc, celui qui agit et qui met en œuvre un désir de vérité, arrive tôt ou tard à Christ, parce que Christ viendra à lui, parce que Christ manifestera en lui ses œuvres, son chemin, et Christ sera en lui, fera en lui tout ce qu'il faut pour qu'il soit dans la pleine vérité et la pleine lumière. C'est le Christ, le Messie. Et nous n'avons pas une foi qui nous sauve par nous-mêmes, nous avons une foi en Jésus qui nous sauve. Bien sûr, la foi est la porte du salut, dans le sens que Jésus répond et accepte et bénit notre foi et engendre la vie par la foi. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 8 au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, donc en lui, vous êtes vraiment mes disciples, mes enseignés, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Affranchir de toute œuvre mauvaise, de tout lien avec Satan, de tout lien avec le péché, de toute dépendance d'esclavage envers le mal, et elle nous donne toute liberté d'aimer Dieu, toute liberté de faire sa volonté, et elle nous donne le désir et l'amour de faire la volonté de Dieu. Voilà. Voilà, et tout cela, en quelques instants, la Samaritaine se voit proposer ce challenge, cette grâce venue de Dieu, et qui ne dépend pas d'elle. Elle est surprise. C'est une femme qui est surprise. Jésus s'est fait petit. Il ne s'est pas mis comme un juif prétentieux de Judée. Il s'est présenté comme un homme simple qui avait soif. Et puis il lui parle. Il lui propose des choses, une chose fondamentale, nouvelle. Parce qu'il la connaissait d'avance. Il la connaissait de toute éternité. Et il savait qu'elle, qui avait eu 5 maris, ne désirait qu'une chose, c'est sortir de son bourbier et jaillir à la vie. Passer à une autre vie. Trouver la lumière en sa vie, alors que sa vie n'était que ténèbres. Alors au verset, je retourne à Jean chapitre 4, verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. » Elle n'a pas encore vraiment compris, mais elle cherche à comprendre. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. » Alors là, Jésus connaît, là. Il agit par, non pas par ruse, mais avec intelligence. Et c'est son point sensible. Et il va voir si elle se cache, si elle a peur de montrer ses œuvres mauvaises, ou si elle ose les montrer. Et rappelez-vous ce que nous avons lu précédemment. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. Rappelez-vous ce que Jésus a dit avec Nicodème. Je te voyais alors que tu étais sous le figuier. Et quand Jésus avait vu Nathanaël, il l'a rencontré. Nathanaël n'était déjà plus sous le figuier. Nathanaël se rendait à l'endroit où était Jésus, à sa rencontre, pour le voir. Dans Jean chapitre 1, verset 50, il avait quitté le figuier et il allait voir qui était ce Jésus dont Philippe lui a parlé. Et voilà, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc, l'omniscience de Dieu est en Jésus. Et alors là, à l'instant même, cette femme comprend que Jésus n'est pas un être tout à fait comme les autres humains, qu'il est, il a l'omniscience. C'est pas seulement la télépathie, c'est pas seulement un don de médium, comme certains humains osent le croire, osent le faire, même certains pasteurs dans des cultes, soi-disant inspirés. Ce n'est pas de ce don-là que parfois Satan donne à des hommes, à des sorciers ou à des faux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas du tout cela. C'est l'omniscience divine. Pourquoi? Parce que il lui dit, tu n'as pas de mari. Tandis qu'un médium lui dirait, mais tiens, un mari, c'est le cinquième, ou c'est le premier, c'est le deuxième, etc. Il le renverrait vers l'un ou l'autre. De nouveau, vers une relation impure. Tandis que Jésus, ici, lui dit, mais tu n'as rien trouvé, en fait. Tu ne vas pas trouver le mari que moi j'avais préparé toute une éternité pour toi. Tu as échoué dans ta mission pour trouver le bien-aimé. Alors, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Tu parles au nom de Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, ça y est, elle se reporte sur des clichés habituels, des clichés culturels, des clichés où les Juifs se prétendent supérieurs aux hommes et aux femmes de Samarie. Et Jésus lui répondit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Donc il dit, « Il n'est plus question de parler de Jérusalem ou de Samarie. Ce n'est plus le moment. Avec moi, ce n'est pas nécessaire. Ce temps-là est révolu. Il n'y a pas d'endroit pour adorer Dieu. » Et nous allons voir l'explication que Jésus dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Nous adorons ce que nous connaissons, le Dieu de la Bible, de la Révélation, Jean 5, 39. Le salut vient des Juifs, non pas par arrogance ou par prétention, mais par ce que toute la Torah révèle, le salut est donné aux hommes et aux Juifs, en premier. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà le vrai lieu de l'adoration. C'est l'esprit, le vrai lieu. Un esprit transformé par la vérité de Jésus. Alors Jésus s'explique au verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Et voilà, vous voyez, chers amis, que la vérité n'est pas une vérité qui s'altère d'un fait à l'autre. Ce n'est pas une pensée abstraite. C'est une personne, c'est Jésus. Et la puissance de l'amour, la puissance de vérité qui est en Jésus est inaltérable. Elle dépasse toutes les montagnes. Elle dépasse tout. Celui qui en fait l'expérience n'en doute pas. Celui qui sait que toutes les autres vérités sont balayées et qu'il a trouvé vraiment le lieu même, le temps même de la vérité, c'est le Christ Jésus. C'est lui la révélation incarnée de la vérité. Et nous devenons libres de toutes les autres vérités. Nous avons bu librement à une source abondante, à la vraie source. Et nous sommes libres maintenant, on n'est plus altérés et assoiffés. Nous ne sommes plus frustrés en rencontrant Jésus. Nous sommes comblés. Comme dit Paul dans Colossiens, nous avons la plénitude en Jésus. Alors, chers amis, si Jésus vient à vous, ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous sauver. Regardons ce qu'il est dit dans Jean chapitre 8, à propos de la femme adultère. Les hommes qui se prétendent des hommes de foi, mais qui sont des hommes de rigueur, des hommes de règlement, et qui n'ont pas réellement de relation vivante avec Dieu, qui n'ont pas un réel esprit de repentance, ils ont simplement une religion, des rites, des convictions. Et voici, cet homme, tous ces hommes sont là, autour de Jésus, et lui présentent une femme qu'ils ont pris en adultère. Chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Nous savons pourquoi, parce qu'il prie toujours à cet endroit, toute la nuit, ou une partie de la nuit. Et c'est là qu'il est monté au ciel, d'ailleurs, et c'est là qu'il reviendra. C'est là qu'il a souffert, qu'il a donné son accord à son Père pour mourir sur la croix. C'est un endroit extrêmement important. Dès le matin, il est là de nouveau dans le temple, qui n'est pas loin, bien sûr, hein, 150, 180 mètres à peu près, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, donc des hommes de religion, des hommes de, des formalistes, si vous voulez, des légalistes, amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Si Jésus acquitte la femme, il est contre Moïse. Si Jésus approuve Moïse, il est aussi dur qu'eux, et il n'est plus le Messie plein de miséricorde. Il n'est plus là pour sauver, il est là pour condamner. Il trahit sa mission. Donc Jésus doit absolument se positionner tel qu'il est. Et il se positionne tel qu'il est. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et si vous lisez Jérémie chapitre 17, verset 13, c'est Dieu qui a inscrit sur la terre le nom de ceux qui ne sont pas sauvés. C'est Dieu. Dans Jérémie 17, 13. Il n'y a pas de doute que Jésus a pris autorité sur eux. Dans le silence est devenu une terreur pour eux, source de confusion. Voici, verset 13. « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive. » Nous voyons donc là le thème de l'eau vive qui est repris de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Mais ceux qui se détournent de la personne même de Dieu et qui n'ont pas une véritable repentance, une véritable considération pour Dieu, une grande humilité, une connaissance de leurs propres péchés, un esprit de repentance réel, et ils sont là, ces hommes. Ils sont là pour demander à Jésus d'être comme eux, ou, s'il n'est pas comme eux, de créer un scandale pour pouvoir le condamner, l'accuser. Il faut savoir, les amis, qu'il a été cloué à la croix comme étant un ennemi de Moïse, un ennemi de la foi juive, un ennemi de la loi, un envoyé de Satan qui voulait détruire le temple et la loi de Moïse, le judaïsme. Il a été considéré comme l'envoyé de Satan. Il n'y a aucun doute, Jésus n'était pas aimé. Il n'avait pas de considération, reçu la considération de ces hommes-là. Ces hommes-là ne voulaient pas l'aimer et ne voulaient pas l'accepter. Ils l'ont considéré comme un ennemi redoutable qu'il fallait écarter parce qu'il entraînait les foules et les écartait d'eux. Mais voilà que dans Jean chapitre 8 verset 6, Jésus en baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et donc, Jérémie 17 verset 13 prend autorité. Comme il continue à l'interroger, il se tait bien sûr, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et voici, voici Dieu qui parle. Voici Dieu qui parle. Voici l'autorité même de Dieu, d'un être pur, sans péché, d'un être qui ne fait pas de concession à celui qui condamne les autres, à celui qui juge les autres. Car un seul est juge, un seul est législateur, c'est Dieu. Un seul peut juger. Ainsi, il les confond dans leur orgueil et leur endurcissement, dans leur manque de vérité. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Vous vous rendez compte, chers amis, que ce que Jésus a fait était comme un éclair qui tombe du ciel, comme la foudre qui tombe dans leur cœur, dans leur âme. Ils ont tremblé. Ils ont vu ce qu'ils étaient. Mais quand ils ont vu ce qu'ils étaient, ils ont refusé celui qui leur montrait ce qu'ils étaient. Ils ont refusé sa vérité, ils ont refusé son amour. Ils ont refusé sa miséricorde. Quand ils entendirent dire cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Dans la tradition rabbinique, généralement, le mot « au milieu », le lieu, représente une façon imagée de dire « Dieu ». Avec la femme qui était là, et puis Dieu était avec elle. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non ». Seigneur, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà la révélation de Jésus à la Samaritaine et à la femme adultère. Voilà la révélation aux foules. Jésus est-il un simple guide touristique, un nouveau religieux qui tend des pièges aux hommes? Jésus est-il simplement un gourou? Suffit-il de se faire une idée de Jésus, puis de s'en aller et s'investir dans l'idée qu'on s'est fait de Jésus? Est-ce bien cela que Jésus nous demande? Ce n'est pas du tout la véritable expérience de Jésus. Lorsque Jésus intervient avec autorité dans notre cœur, nous ne pouvons plus éviter d'être mis à nu. On est mis à nu, on se voit à nu, et on peut être habillé de Dieu. On peut retrouver une nouvelle gloire, être habillé. Regardez ce qui s'est passé à Adam et Ève. Quand ils ont péché, les hommes se cachèrent. Genèse, chapitre 3, verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Pourquoi? Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Voilà l'instinct de l'homme, se cacher. L'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et donc, automatiquement, Dieu nous montre bien que nous participons au drame du péché d'Adam et Ève. Nous voulons définir le bien et le mal, nous voulons être juges. Nous voulons juger ceux qui sont sauvés et pas sauvés. Nous voulons dire ceux-là sont avec nous, ceux-là sont contre nous, etc. Ceux-là sont avec Dieu, ceux-là sont contre Dieu. Or, tout cela n'est que de l'autorité de Dieu. La participation à l'arbre du bien et du mal nous est interdite. Et qu'est-ce que fait un homme ou une femme qui rencontre vraiment Jésus? Eh bien, il reçoit sur lui un nouveau vêtement. Rappelez-vous ce qui a été promis en Genèse chapitre 3, verset 21. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Dans ce beau verset, nous voyons que Dieu est le premier sacrificateur. C'est lui qui a offert un agneau et qui a mis la peau de l'agneau, qui représente Christ, sur Adam et sur Ève. Paul nous explique cela dans Romains chapitre 5, verset 14. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'au moment où la loi est arrivée, et puis alors la loi a montré à tous les hommes ce qu'ils étaient, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc tous les hommes, avec le décalogue, ont compris qu'ils étaient pécheurs, puisqu'ils ne pouvaient pas accomplir la loi. Donc ils étaient sous la transgression d'Adam et Ève. Mais transgression semblable à celle d'Adam, virgule, lequel est la figure de celui qui devait venir? Adam est la figure de celui qui devait venir, donc de Christ. Comment cela? Le mot tupone représente la marque du Christ. Le vêtement de peau déposé sur Adam et Ève était la marque, la préfiguration de Christ et du salut promis en Christ. Prenons l'image du facteur qui prend un tampon et qui voit une lettre, et avec timbré, il prend son tampon, il frappe le tampon, l'encreur, et puis ensuite, il frappe la lettre. Et la figure qui est sur le tampon est sur la lettre. La figure qui est sur la lettre correspond à la figure qui est sur le tampon. C'est en cela que, sur la lettre, il y a le tupone de ce qui est sur le tampon, sur le sceau, le cachet. Et cette figure qui est sur le cachet, eh bien, c'est une image, c'est Christ qui, dans le ciel, a marqué Adam et Ève et toute sa descendance pour le salut. Donc, quand Adam reçoit cette promesse d'un salut, il est évident que la Samaritaine et la femme adultère sont sous la promesse du salut. Et ceux qui refusent la miséricorde et le pardon par grâce, ceux qui refusent, qui ne veulent qu'une religion par légalisme et par jugement, par dureté de cœur, ceux-là ne sont pas sous la grâce. Ils sont sous l'esprit de Caïn. Nous sommes heureux de connaître, à travers l'événement de la Samaritaine et de la femme adultère, ce qu'est Jésus. Jésus est la miséricorde incarnée. Jésus est le serviteur de Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu. Et regardons Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, voici ce que Dieu nous révèle. 7 à 8 siècles avant, ce que ce serviteur va apporter aux hommes. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, donc le Christ? Il s'est élevé devant lui, devant Dieu, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Terre desséchée, bien sûr, terre désertique, c'est Israël. Sans la grâce, il n'avait ni beauté, et le monde, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ce Jésus de Nazareth. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc ce n'est pas un homme glorieux au sens humain, au sens des rois, au sens de ceux qui ont du succès, du pouvoir, de l'argent, etc. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc Jésus est dans la condition de la femme samaritaine. Jésus est dans la condition de la femme adultère. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Je pense et je crois que Jésus s'est arrêté au bord du puits, au chapitre 4 de Jean, pour une femme qui était chargée de douleurs, chargée de souffrances, une vie d'échec, une vie creuse, une vie où il n'y avait plus de sens, une vie d'errance. Il s'est fait petit pour pouvoir qu'elle puisse l'aborder. Et de la même façon pour la femme adultère, il s'est fait petit, il n'a rien dit. Il n'a pas commencé à s'emporter contre les prêtres, mais la puissance de son amour était en lui. La puissance du Saint-Esprit était en lui. Elle l'a confondu. Il a porté les douleurs de cette femme adultère. Il a porté ses échecs. Et il en était blessé, malheureux du péché de la Samaritaine, comme du péché de la femme adultère. Il était blessé pour nos péchés. Il fut brisé sur la croix pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez, frères et sœurs, à quel point Jésus est notre grand sauveur, notre grand maître. Le jour que vous le rencontrerez, vous verrez un regard plein d'autorité, un regard plein de force, mais en même temps un regard qui a souffert, qui a compati, un regard qui a compris les humains, qui a compris les échecs, qui a compris les péchés, qui a compris l'errance de l'homme, mais un regard qui ne s'est jamais compromis dans le péché. Un regard qui s'est approché de tous les péchés, un regard qui n'a jamais plongé dans le désir de péché. Un regard d'amour et de sainteté, un regard qui nous conduit, un regard qui nous amène à trouver en lui la paix et la joie de l'amour divin. Je lis dans Ésaïe 53, verset 11, « À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. » Les regards de Jésus sont véritablement remplis de paix et de joie, de paix et de force et de miséricorde. À cause de sa sainteté, à cause de son esprit de service pour les hommes, à cause de son esprit d'obéissance à son Père des cieux, à cause de son sens de la mission de rédemption, le travail de son âme abonde à travers son regard, et son regard touche la femme adultère, touche la femme samaritaine, et j'espère aussi votre regard, chers amis. Croisez le regard de Jésus, et comme dit Jean dans son évangile, viens et vois. Viens à Jésus, et vois Jésus comme il est, et tu seras sauvé. Amen.